Chapitre 71. Giordano n'existait plus, avait dit Juliane. Mais il n'avait jamais été aussi présent dans l'esprit de Léane. Elle pensait aux jours d'enfer qu'il avait subis dans le fort, à sa fille Roxane qui ne reverrait jamais son père, à l'arrière de son crâne rouge sang et à la silhouette agitée de son mari qui le recouvrait de terre. Des flics le recherchaient sans relâche. Peut-être le nom de Giordano ressortirait-il un jour de l'affaire Moriarty. Peut-être en viendrait-on à les interroger, Juliane et elle, dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Comment vivre avec une telle épée de Damoclès au-dessus de la tête? Elle se gara sur le parking de l'hôpital sous un ciel gris cendre qui donnait l'impression d'une nuit perpétuelle. Depuis combien de jours le soleil n'était-il pas apparu? Elle courut sous le vent et se présenta à l'accueil. Le docteur Grechkoviak l'attendait dans son bureau. Elle grimpa à l'étage avec une boule au ventre. Le spécialiste lui tendit la main, referma la porte et la pria de s'asseoir. Il s'installa face à elle, de l'autre côté de son bureau. Il la scruta avec attention, l'air soucieux. Léane portait sur son visage le poids de sa nouvelle nuit blanche et du calvaire qu'elle traversait. Les bruits de pelle résonnaient encore en elle. Comme je l'ai dit dans mon message, je voulais vous entretenir au sujet de Juliane. Il n'est pas venu aux séances. Savez-vous pourquoi? C'est son père. Son corps a été retrouvé du côté de Grosflier. Il a probablement eu un geste d'inconscience en s'aventurant dans la baie alors que la mer montait. Grechkoviak eut un pincement de lèvres. J'en suis sincèrement désolé. Quand cela est-il arrivé? On ne sait pas exactement, le corps a été découvert hier matin, mais on n'avait plus de nouvelles depuis le réveillon. Le médecin poussa le dossier de Juliane sur le côté. Peut-être qu'on devrait remettre notre rendez-vous à plus tard et... Non? Allez-y. Il mit ses poings sous son menton. Comment Juliane prend-il la mort de son père? Elle haussa les épaules. Comme un amnésique? Le médecin parut gêné. Il se racla la gorge. « Avant ce drame, dites-moi comment s'est passé le retour de votre mari à la maison. A-t-il retrouvé ses marques? Y a-t-il des automatismes, des situations faisant appel à la mémoire qui lui sont revenues ?» Léane essaya de faire abstraction du marécage dans lequel Juliane et elle étaient embourbées et se concentra sur les choses simples. Ça se passait plutôt bien. Il était à l'aise dans la maison, n'avait pas mis longtemps à se rappeler la place des objets. Aujourd'hui, de petites choses lui reviennent, d'autres non. Il continue à dormir du mauvais côté du lit, par exemple, mais il me prépare des plats que j'aime, ou s'occupe de la maison, ce qu'il a toujours fait. Désormais, il peut aller conduire en voiture d'Amberg. Il a repris ses habitudes dans son fauteuil, l'ordinateur sur les genoux pour faire ses recherches sur... Votre fille ? Léane acquiesça. Ça reprend le dessus, ses obsessions sont tenaces. Et les souvenirs vous concernant ? Ça va. Il comprit que Léane n'avait pas envie d'approfondir et n'insista pas. Ses collègues ? Son travail ? Il n'en parle pas encore. Vous savez, avant son agression, Juliane était, comment dire, au bout du rouleau. Pas sûr que ça allait pour le mieux au travail ou avec ses collègues. Dans votre message, vous me parliez de quelque chose de bizarre. Que se passe-t-il? Il posa sa main à plat sur un dossier. Vous le savez peut-être, la récupération des souvenirs personnels peut être brutale ou progressive, sous forme de souvenirs paraissant très lumineux, très détaillés ou flous. Certaines scènes reviennent sous forme de flash au réveil, en regardant des photos ou en touchant des objets. Sachez que ces deux dernières méthodes ont été particulièrement efficaces avec Juliane. Il ouvrit la pochette, poussa un paquet de photos vers Léane. Elles sont à vous. Vous pouvez les récupérer. Grâce à ces photos, il a pu se remémorer des scènes précises de son passé. Des lieux, des situations, des odeurs. Chaque jour, il faisait des progrès notables. Est-ce que vous pouvez regarder ces photos ? Léane ne voyait pas où il voulait en venir, mais s'exécuta. Elle parcourut les clichés un à un et eut chaque fois des pincements au cœur. Tranches de vie, de bonheur, les souvenirs qui revenaient, qui lui faisaient mal. Ils étaient si jeunes, si heureux. Léane tiqua soudain. Entre deux photos de vacances, elle s'attarda sur un cliché qui montrait une vieille Alfa Romeo garée dans une rue avec la tour de Pise en arrière-plan. Un problème ? Cette photo ? Elle ne me dit rien du tout. Vous êtes certaine ? Oui, oui, on est déjà allé en Italie, mais pas à Pise. On n'a jamais eu ce genre de voiture. Je suis confuse. Pourtant, cette photo a fait réagir Juliane. Il en avait un souvenir assez précis. Il ne se rappelait plus la période, mais il était sûr d'être allé là-bas avec vous. Il parlait de la chaleur, du bruit, et racontait même que vous étiez monté en haut de la tour. Léane secoua la tête. Je ne comprends pas, je n'en ai aucun souvenir. Le médecin récupéra le rectangle de papier glacé. C'est normal. Cette photo ne vous appartient pas. Elle fait partie d'une série de clichés que nous utilisons pour nos tests. Léane était perdue. Qu'est-ce que ça veut dire ? La mémoire est extrêmement complexe, Léane. Elle peut parfois nous jouer des tours et créer de faux souvenirs. Elle a horreur des vides et les comble d'elle-même lorsque c'est nécessaire. Nous avons glissé cette photo entre deux de vos photos de vacances bien réelles. La question était donc de savoir si Juliane avait affaire à un vrai faux souvenir, s'il mentait juste pour nous faire plaisir et prouver qu'il progressait vite, ou alors s'il était dans une quelconque démarche de simulation. Léane se cala sur sa chaise. Elle sentait que le pire était à venir. Cela fait près de 10 jours que nous expertisons sa mémoire. C'est un territoire fragile, mouvant, malléable. Les souvenirs n'appartiennent qu'aux patients. La tâche n'est pas simple pour distinguer le vrai du faux afin de nous rendre compte de la profondeur d'une amnésie. Nous avons réalisé une batterie d'examens poussés, notamment des questions auxquelles il devait répondre, des séries de gestes qu'il devait exécuter et qui sollicitaient d'autres mémoires. Le but étant de vérifier la cohérence de ses réponses. Quand on teste les gens, on a par exemple toujours plusieurs manières d'aborder une même question. On recoupe ensuite les informations, exactement comme le fait la police. On pose une question en rapport avec les souvenirs d'une certaine manière, on l'aborde ensuite par un autre biais. Il prit des feuilles dans le dossier. Juliane a eu des résultats en dehors des normes à la quasi-totalité des examens, ce qui fait de son amnésie une amnésie un peu trop belle, trop caricaturale, si vous voulez. Je vous cite juste l'exemple d'un test de reconnaissance où il faut choisir la bonne réponse entre deux possibilités. Il poussa les résultats vers Léane. Un amnésique a, en moyenne, un taux de bonne réponse de 50%. Juliane a eu moins de 15% de bonne réponse. Léane regarda les tests en vitesse, des mots qu'on demandait de retenir et qu'on mélangeait à d'autres, des exercices de rappel. Elle les reposa devant elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il choisissait souvent la fausse réponse. Qu'il forçait peut-être son amnésie. Vous êtes en train de me dire qu'il simulait ? Grechkoviak répondit avec calme. Il prenait des précautions. Ces résultats sont de manière générale caractéristiques des patients qui ne sont pas amnésiques, mais qui veulent le faire croire. Léane eut l'impression de recevoir un coup de poing en pleine figure. Ce n'est pas possible. Attention. Je ne dis pas que c'est le cas, c'est seulement une hypothèse. Plausible. Même si ces scanners n'indiquent pas la moindre lésion, il est malheureusement impossible d'avoir des certitudes à ce stade, le travail sur la mémoire n'étant pas une science exacte. Il arrive que certains patients accentuent en toute bonne foi leur amnésie pour obtenir un bénéfice corporel, juridique ou financier. Julia n'a, me semble-t-il, aucun intérêt à simuler, si je ne me trompe. Il n'y a pas d'argent ou de faits juridiques en jeu. Il ne simule pas. À l'annonce du décès de son père, il n'a rien ressenti, enfin, juste une tristesse de circonstance. Il adorait son père. Vos tests ne sont pas fiables. Le médecin n'essaya pas de la contredire. C'est possible. Mais je voulais que vous soyez au courant. Une fois que Julian aura fait tout ce qu'il faut pour son père, nous continuerons les séances. Nous verrons ce que cela donne. Vous veillerez à ce qu'il vienne au rendez-vous, c'est important. Et évitez de lui parler de notre entretien afin de ne pas fausser les prochaines expertises. Vous pourrez faire ça?
Je vais essayer.
Il se leva et la raccompagna vers la sortie. S'il y a une personne capable de dénouer le vrai du faux, c'est vous, Léane. Vous vivez depuis longtemps avec lui, tentez de tester sa mémoire, de détecter les incohérences. Vous seul êtes capable de juger de la véracité de ses souvenirs et aussi de son amnésie. Il lui serra la main et elle regagna sa voiture. Elle resta là en pleine réflexion, sans bouger. Certes, Julian était à l'aise dans la maison, il avait repris ses marques, certaines petites habitudes, mais comment imaginer qu'il ait simulé ? Simuler le fait de ne plus se souvenir d'elle, ni de la disparition de sa fille, ni de Giordano. Pourquoi ? Elle revoyait son premier regard à son réveil, il ne l'avait pas reconnue. Elle se rappela sa réaction à l'annonce de la noyade de son père. Il aimait Jacques. S'il simulait son amnésie, comment aurait-il pu paraître aussi insensible ? Comment aurait-il pu se retenir d'exploser en sanglots quand les flics avaient annoncé la mort de Sarah ? Elle mit le contact pleine de doutes. Elle revit la manière dont Julian avait écrasé le pied de Giordano dans le fort. Pourquoi soudain une réaction si disproportionnée ? Avait-il eu des réminiscences ? Elle sentit un choc dans sa poitrine quand elle pensa aux révélations du type au visage de Mérou. Julian avait payé pour être frappé avec une batte de baseball sur le crâne. Mais comment pouvait-il savoir que cela provoquerait à coup sûr une amnésie ? C'était impossible à prévoir. Le doute s'amplifia. Et si son mari avait planifié son agression pour pouvoir justement simuler une amnésie ?